politologue, chroniqueur, spécialiste de l'Asie, notamment Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Parle-nous de cette entente entre les Kurdes et le gouvernement de Syrie contre les attaques de la Turquie.
Oui, c'est quelque chose qui s'est produit ce week-end. Il y aurait eu un accord entre les Kurdes et le gouvernement syrien. Il semble qu'à partir d'aujourd'hui, l'armée syrienne pourrait entrer dans l'Afrin et dans ce territoire de l'Afrin, et donc qu'elle prendrait des positions qui sont occupées par les Kurdes. Les Kurdes donc se retireraient, et plus que ça, le gouvernement syrien enverrait des fonctionnaires dans l'enclave de l'Afrin, et ces fonctionnaires prendraient le contrôle des immeubles du gouvernement. Donc, le résultat de l'attaque des Turcs, ce serait que, certes, les Turcs perdraient le contrôle de l'Afrin au moins aux mains du gouvernement syrien, mais ils ne seraient pas détruits pour autant.
Les Kurdes ne seraient pas détruits, tu veux dire?
Les Kurdes ne seraient pas détruits pour autant, oui.
Oui.
Et ce qu'on peut se demander, c'est ce que les Kurdes ont obtenu en échange. Est-ce qu'ils ont obtenu une autonomie garantie sur certains territoires syriens? Les porte-paroles kurdes disent qu'il s'agit juste d'un accord militaire. Et il y a des gens qui disent aussi que cet accord peut-être ne sera pas réalisé non plus. Parce que figure-toi qu'il y aurait des pressions extérieures pour que l'accord ne soit pas mis en place. Et on croit comprendre entre les lignes que les Américains sont pas très contents de cet accord-là. Parce que tu comprends bien que si le gouvernement syrien prend le territoire de l'Afrin, c'est pas les Turcs qui l'auront, c'est pas les Kurdes qui l'auront. Et donc, en fait, ce sont les alliés des Américains qui reculent dans cette circonstance-là. Et donc, on voit ici que Poutine est en train de jouer toute une partie d'échec encore en Syrie et qu'encore une fois, c'est peut-être lui qui est en train de gagner cette partie d'échec.
Donc, ce que tu nous dis, dans le fond, c'est que là où étaient les Kurdes, ça s'appelle l'Afrin, ils se sont fait attaquer par la Turquie. Donc, la Turquie a traversé la frontière pour attaquer les Kurdes parce qu'ils sont en guerre ouverte contre les Kurdes. Les Kurdes, se voyant sous pression militaire par l'armée turque, sont venus à un accord avec le gouvernement syrien pour dire, bon, ben gardez, on va se tasser du chemin plutôt que de subir les attaques d'artillerie de l'armée turque. On va se tasser, venez prendre notre place. Et donc, on peut présumer qu'à ce moment-là, l'attaque turque va cesser. Maintenant, qu'est-ce que les Kurdes ont obtenu en échange pour céder ce territoire aux Syriens? C'est la question que tu poses.
Écoute, tu dis que l'attaque des Turcs va cesser, mais c'est même pas sûr.
Si elle ne cesse pas, on aurait un conflit ouvert entre la Syrie et la Turquie.
Ah ben là. Et c'est ça qui est intéressant parce que le ministre des Affaires étrangères turc a déclaré que si l'armée syrienne entrait dans l'Afrin pour nettoyer l'Afrin des forces kurdes, alors bon, les Turcs seraient très contents. Mais si c'est pas pour ça, alors les Turcs pourraient attaquer.
Et là, on pourrait avoir une guerre ouverte.
Oui.
Oh.
Entre la Syrie et la Turquie.
Ah non, ça, on ne veut pas ça, là. Ça, on ne veut pas ça.
Donc, c'est pour ça que je tiens au courant de ce qui se passe là.
Absolument.
Mais c'est vraiment toute une partie d'échecs, encore une fois, qui se joue dans cette région.
Très bien. Parle-nous de ce qui se passe avec Angela Merkel en Allemagne.
Angela Merkel, tu te souviendras qu'on avait dit qu'elle était très fragile parce qu'elle avait cédé beaucoup de postes aux sociaux-démocrates, entre autres le poste de ministre des Finances. Eh bien, elle vient de désigner quelqu'un qui va lui succéder. Il s'agit de Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a 55 ans, qui est une diplômée de sciences politiques et de droit. Elle doit devenir cette semaine la secrétaire générale de l'Union démocrate chrétienne, qui est le parti de Mme Merkel.
Donc, si Merkel est obligée de céder son poste comme chancelière, dis-je bien, à ce moment-là...
C'est elle qui la remplacerait.
Et est-ce qu'on la connaît?
Mais comme je t'ai dit, elle est très peu connue. Elle n'a pas d'expérience ministérielle. On dit d'elle qu'elle a réussi à garder son comté aux dernières élections, malgré la grande popularité dans sa région des sociaux-démocrates. Donc, c'est un petit titre de gloire. Mais pour ça, pour le reste, tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est un peu moins conservatrice que Mme Merkel sur certaines choses. Elle est quand même assez centriste, mais on sait que, par exemple, elle ne s'oppose, elle n'a pas la même position sur l'immigration. Elle est plus dure que Merkel sur l'immigration. Elle est en faveur, par exemple, de l'expulsion de ceux qui n'obtiennent pas le droit d'asile ou qui trichent sur leur identité. Mais... pour le reste, ça ressemble beaucoup, beaucoup à Mme Merkel comme position politique.
OK, bien, ce serait intéressant, mais écoute, Merkel, elle a quand même gagné l'élection. Si elle ne réussit pas à former son gouvernement de coalition, moi, ça, j'ai de la misère à concevoir que Merkel pourrait quand même quitter, même si elle a gagné l'élection.
Souviens-toi, il y a beaucoup de gens qui demandent son départ à l'intérieur de son parti, entre autres, toute son aile jeunesse qui est immense, qui fait quoi, 120 000 membres de mémoire, la plus grande aile jeunesse de tous les partis en Europe. Et d'autre part, il y a beaucoup de gens qui lui reprochent, je te le rappelle, d'avoir cédé beaucoup trop de postes importants. Je t'ai dit le poste de ministre des Finances, mais elle a aussi cédé le poste de ministre des Affaires étrangères aux sociaux-démocrates. Ça rend ces sociaux-démocrates très... son parti très mécontent parce qu'ils pensent qu'ils ont vraiment trop donné.
Bon, en une minute, parle-nous de ce voleur américain qui s'est fait prendre et ça crée tout un émoi en Chine.
Oui, il s'est introduit dans le hall d'exposition du Franklin Institute de Philadelphie. Or, dans ce hall d'exposition, il y a en ce moment des statues entières en terre cuite de la fameuse armée chinoise enterrée dessus de Xi'an.
Oui.
Alors, lui a trouvé que c'était une très bonne idée de prendre un égo-portrait de lui, donc, et de la statue en terre cuite. Jusque-là, il n'y a rien de trop grave. Sauf que figure-toi qu'il a voulu emmener un souvenir avec lui. Et il a cassé le pouce de la statue avec laquelle il s'est pris en photo et il est parti avec.
Quel idiot!
Il a été en plus... Bon, évidemment, il a mis ça sur Internet. On a remarqué que le pouce était parti. On l'a arrêté. On a trouvé dans un tiroir chez lui le pouce en question. Il est accusé de vol et de recel. En plus que, imagine, cette statue vaut plus de 4 millions de dollars américains. Mais l'opinion chinoise est furieuse. Le directeur du musée des statues de l'armée de terre cuite accuse l'Institut Franklin de laxisme. Il a envoyé deux experts pour réparer la statue avec le pouce retrouvé. Mais ça, c'est très précisément le genre de choses qui, dans des populations, moussent le nationalisme. En Chine, va mousser l'anti-américanisme. C'est exactement le genre de choses que tu ne veux surtout pas voir dans ton pays.
Oui, je comprends très bien. Loïc Tassier, on se reparle demain.
C'est un plaisir.
Et dans un instant, on va vous parler du fait que le nombre d'entreprises au Québec diminue. Si on prend le nombre d'entreprises au Québec par rapport à l'ensemble canadien, ça tombe, ça diminue vraiment de beaucoup. Et puis moi, je vous le dis, je pense que pour qu'on ait une belle économie, puis pour qu'on crée de la richesse, ça nous prend des entrepreneurs. Puis je veux comprendre comment ça se fait qu'on ait moins entrepreneurs au Québec qu'ailleurs dans le Canada. On répond à cette question-là dans un instant.